Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Amen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner notre temps au Seigneur dans la prière. Amen. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole qui change des vies, qui nous affranchit, Seigneur Dieu. On veut te remercier pour la présence de ton esprit qui est ici pour nous donner des révélations. Et Seigneur, je veux prier Éphésiens 1, la prière de l'apôtre Paul qui priait pour les gens en Éphèse. Seigneur, que notre Dieu Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et Seigneur, je prie ces paroles-là sur chaque personne qui est ici, qui puisse recevoir l'esprit de révélation aujourd'hui même pour comprendre, Seigneur, ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Vous savez, cette semaine, comme je préparais le message sur la plage, vous savez, moi, je pense toujours, puis j'étais en train d'étudier même sur la plage, parce que je suis comme ça. Ma femme a dit, c'est difficile pour toi d'arrêter de penser. Même, je pense tellement que depuis l'âge de 12 ans, je me couche souvent le soir en écoutant une prédication pour saisir mes pensées, pour arrêter de penser et pour m'endormir. J'ai fait ça pendant longtemps, longtemps. Alors, c'est ça, on est tous comme ça à un certain niveau, on pense. Mais quand j'étais sur la plage, je méditais sur ce que Dieu voulait que je vous apporte ici comme message, parce que pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse entendre de Dieu, que ce ne soit pas ma parole, mon opinion, mais que ce soit la parole de Dieu pour vous au moment même. Et puis, qu'est-ce que j'avais dans mon cœur? C'était de continuer sur l'enseignement qu'on a enseigné la semaine passée sur le rachat. La semaine passée, on a appelé ça « racheter », comme quoi nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Mais cette semaine, qu'est-ce que j'avais dans mon cœur? C'était de vous parler de la révélation du rachat. Vous allez dire, c'est quoi la différence? Il y a une grande différence dans un certain sens, c'est qu'il y a des gens qui peuvent entendre parler comme quoi on a été racheté de la malédiction de la loi. On peut l'entendre parler, l'écouter, et puis quelqu'un qui est assis là peut entendre le même message que nous, mais nous, on peut le recevoir d'une autre façon. Savez-vous ça? Dépendamment de la façon qu'on va recevoir le message, des fois on va penser à d'autres choses, on va penser au McDonald's, à notre Big Mac, à notre pizza, et puis pendant la prédication, on pense carrément à d'autres choses, et puis ça ne nous bénira pas, ça ne changera pas nos vies, n'est-ce pas? Cependant, si on reçoit le message et on est attentif à ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer, ça peut changer nos vies. Et là, on reçoit une révélation personnelle. Puis c'est ça la différence entre quelqu'un qui reçoit cette révélation comparativement à quelqu'un qui fait juste écouter et la parole de Dieu décrit cette personne-là comme étant un auditeur oublieux. On l'entend, mais ça ne change rien dans nos vies. Mais savez-vous, on n'a pas commencé cette église ici pour rajouter une église à Granby. Le désir de cette église, c'est de voir des vies changées, des vies transformées. La raison pour laquelle on est de retour au Québec, c'est pour voir une armée qui va s'élever, qui va être victorieuse, une armée victorieuse, et par la suite, on va relâcher pour rejoindre les gens. L'objectif, ce n'est pas de bâtir une église ou de fonder quelque chose. L'objectif, c'est de voir une province transformée, par la suite, une nation et des nations transformées par la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça qu'on croit. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'en 2004, quand le Seigneur m'a donné le mandat personnel de revenir au Québec et de faire de quoi pour la francophonie, je peux vous dire, avant ça, je n'avais même pas à cœur la francophonie. Avant 2004, mon épouse et moi, on s'était promené aux États-Unis pendant 5 ans. Puis je peux vous dire, je trouvais ça plus facile faire du ministère aux États-Unis. Et c'est en 2004 que le Seigneur a mis son doigt sur moi puis me dit, Joël, je veux que tu te concentres sur la francophonie. Je veux que tu rejoignes ton propre peuple. Et ça a changé toute mon optique, toute ma vision des choses. Et on est de retour maintenant pour justement obéir à la voix de l'Éternel. Et je crois, si Dieu nous a renvoyés, c'est parce que Dieu veut faire de quoi parmi nous. Amen. Et il veut voir des vies transformées. Dieu n'a pas oublié le Québec. Dieu a une destinée pour les gens du Québec. C'est pas vrai que les choses se passent toujours à l'extérieur. Ça va se passer ici même. Et moi, je crois la vision qu'on a reçue, que plusieurs personnes ont reçue de cette vague, ce tsunami de la gloire de Dieu qui s'en vient, je crois qu'on va en faire partie. Et déjà, on est dans l'eau, on est déjà trempé dedans. Mais avant de recevoir toute la gloire de Dieu et même le mois de guérison qu'on s'apprête à vivre ensemble, il faut avoir la révélation de notre autorité en Christ. C'est très important. Puis je peux vous dire, c'est ça qui va faire la grande différence entre une église, on pourrait décrire comme étant une église normale, et une église qui va vivre le réveil. Quand on saisit qui nous sommes en Christ et notre autorité, ça change tout. Puis vous allez peut-être dire, ben, je sais, Joël, mon autorité en Christ, mais je vous encourage aujourd'hui d'être ouvert à ce que l'Esprit de Dieu va vous dire. Parce que savez-vous, je crois que des gens qui sont honnêtes avec Dieu, qui recherchent la volonté de Dieu dans leur vie, mais qui sont barrés à un certain niveau, puis ils vont entendre un message de délivrance, un message de guérison, un message sur la bonté de Dieu, et pourtant, ils vont être stoppés là, ils ne pourront pas rentrer dans la terre promise. Pourquoi? Il y a toutes sortes de blocages que l'ennemi nous met dans notre chemin pour nous empêcher de rentrer dedans. Et c'est ça le mandat de l'ennemi pour vous. Il veut vous empêcher de recevoir ce que Dieu a en réserve pour vous. Mais quand on laisse l'Esprit de Dieu nous donner une révélation et on met l'ennemi dehors puis on dit « Moi, je ne t'écoute pas, mais j'écoute la parole de Dieu », ça change vraiment une vie. Et on voit par la suite la façon que les chrétiens vivent. Quand on a reçu une révélation personnelle, ça change notre façon de vivre littéralement. Et même la façon que vous allez percevoir votre vie, comment vous allez marcher dans votre vie chrétienne, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez jaser 5 minutes avec eux, un chrétien de longue date, et puis juste par les 5 minutes de conversation, vous allez déjà savoir qui ils sont. Vous allez savoir où est leur foi et comment ils se perçoivent concernant leur position à Christ. C'est très facile à voir, mais quand on reçoit ça, puis je peux vous dire, on ne dénigre pas les révélations du passé. Vous savez, en 1906, il y a eu le réveil de l'esprit qu'on a vécu. Là, par la suite des années 50, il y a eu le réveil de guérison. Et il y en a des gens, des fois, qui vont dire, « Bien, moi, je m'arrête au réveil de 1906. » Mais Dieu fait toujours des nouvelles choses, savez-vous? Dieu fait toujours des nouvelles choses. En 1906, il y a eu un renouveau. En 1950, c'était le renouveau de guérison massif. C'était glorieux. Par la suite, des années 1970, on a eu le renouveau des dons charismatiques qui sont revenus d'une façon très forte. Et il y a eu le message de la foi qui a été prêché. Des années 90, là, après, il y a eu une autre sorte de renouveau de guérison de l'âme. Et moi, je crois qu'on veut bénéficier de chaque courant que Dieu envoie dans l'Église. On veut en bénéficier et on ne veut pas s'arrêter et dire, nous, on est simplement une Église du message de la foi. Certainement, on prêche la foi, je ne prêche pas le doute, mais on veut suivre les courants de Dieu, n'est-ce pas? C'est important. Puis ce matin, moi, je prie qu'on puisse avoir ensemble cette révélation. Et il y a des choses que je veux vous avertir avant même de prêcher. OK? Je vous donne quelques avertissements. Des choses que l'ennemi va mettre dans votre chemin pour vous empêcher de recevoir le message. Et une des choses, c'est la tradition. Marc, chapitre 7, verset 13. Ça nous dit, c'est Jésus qui parlait, il disait, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition. » Des fois, on peut entendre un message et dire, « Moi, je n'ai pas été élevé d'une certaine façon. Je n'ai jamais entendu ça. Ça ne fit pas dans mon cadre de tradition, donc je ne peux pas endosser ça. » Mais Jésus lui-même a dit, « Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. » Est-ce qu'on veut annuler la parole de Dieu, la parole que Dieu veut nous donner parce que ce n'est pas traditionnel? Non. C'était ça la réponse. Non, on ne veut pas. On ne veut pas annuler la parole. Une autre chose qu'on peut faire, avoir la crainte de l'homme. On peut avoir peur de l'opinion des gens et dire, « Ouais, mais c'est quoi que les gens vont penser? » Vous savez, quand on a la révélation de la foi en Jésus et on réalise qui nous sommes en Christ, qu'on n'est plus des tapis que le diable peut venir s'essuyer sur nous, là, mais qu'on réalise qu'on est un enfant de Dieu et qu'on a de l'autorité sur cette terre, savez-vous des fois la perception des gens? Les gens vont dire, ben, pour qui tu te prends, toi? Tu es donc arrogant. Des fois, ils ne vont pas le dire, mais ils vont penser ça. Tu es arrogant de penser que toi, tu es plus fort que le diable. Hein? Tu es qui, toi? Mais en réalité, c'est jamais notre foi en nous-mêmes et dans notre capacité ou notre puissance. C'est toujours notre foi dans l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour nous, qui nous qualifie. C'est toujours Jésus. Ce n'est pas gloire à nous, c'est gloire à Dieu. Comprenez-vous? Donc, ça, c'est une chose. La crainte de l'homme, et dans Actes 5, 29, ça dit, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Parce qu'on peut vouloir obéir à la tendance de la chair puis dire, je ne veux pas déranger les gens, je veux rester dans le statu quo, hein, pas trop faire de vagues. Mais moi, j'ai le type d'enseignement qui fait des vagues, comme vous allez remarquer. Puis je dis à mon épouse, j'ai dit, ouais, peut-être que je prêche trop fort. Elle dit, ben non, on ne prêche pas trop fort, il faut vivre du changement au Québec. Là. Elle dit, si on prêche toujours la même affaire, ça ne va rien faire. Je sais que je prêche un petit peu difficile des fois, mais moi j'aime mieux quelqu'un qui me dit la vérité en pleine face que quelqu'un qui fait semblant que je suis dans la vérité puis je suis dans une mauvaise route, n'est-ce pas? Alors il y a la crainte des hommes et par la suite, quand on entend parler de l'autorité du croyant, comment on a été racheté, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Par la suite, on comprend qu'on a une responsabilité maintenant. Vous savez, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu a délégué de l'autorité à l'homme. Et quand on réalise qu'on a de l'autorité, tout d'un coup, on réalise qu'on a des responsabilités. Et souvent, les gens qui entendent le message que je vais vous prêcher prochainement vont dire, « Moi, là, je ne peux pas croire ça parce que je deviens responsable tout d'un coup et j'aime mieux toujours m'attendre à Dieu pour tout. » Et savez-vous, on peut attendre longtemps puis passer à côté de plein de bénédictions parce qu'en réalité, on n'a pas pris les pas que Dieu voulait qu'on prenne parce qu'on était trop patient. Est-ce que ça se peut être trop patient? Oui, des fois, on est tellement patient qu'on est en retard. Mais Dieu, aujourd'hui, moi, je crois, qu'est-ce qu'il veut faire parmi nous? Il veut nous donner une révélation. Et en passant, le message que je vous prêche, c'est de quoi qui a été prêché aux États-Unis et dans le monde anglophone depuis les années 70. En fait, c'est un message qui date depuis l'apôtre Paul, mais c'est un message là, que les anglophones entendent et puis ils comprennent et qui ont cru pendant longtemps. Et quand je parlais avec les gens à l'antenne de télévision en Alberta, puis je disais quand on était pour revenir, puis je parlais un petit peu du contexte ici, les gens disaient « Hein? Le monde croit ça? » J'ai dit « Oui, il croit ça, le monde. Oui, mais comment ça? Ça fait longtemps qu'on a compris différemment. » Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un esprit au Québec, dans notre province, pour empêcher les nouvelles choses de Dieu. Parce que des fois, les gens ont peur du nouveau. Est-ce que vous savez ça? Des fois, les gens sont confortables dans leur lazy boy. Il est brisé, il ne marche pas. Leur vie chrétienne ne marche pas. On dirait qu'ils connaissent des choses dans leur tête. Ils savent que Jésus libère, ils savent que Jésus guérit. Ils ne vivent rien de ces choses-là dans leur vie chrétienne. Mais ça ne dérange pas. Je suis confortable dans mon christianisme qui ne marche pas dans ma vie. Savez-vous, on peut être satisfait dans une religion, mais heureusement, ici, aujourd'hui, on ne veut pas une religion, on veut une révélation de la part de Dieu pour qu'on puisse vivre la vie chrétienne et pour que ça puisse marcher dans nos vies. Amen. Moi, je ne veux pas vivre une religion qui ne marche pas. Je veux vivre cette relation avec Dieu qui marche. Amen. C'est disponible pour nous autres, mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de dire, Seigneur, moi, je reçois ta parole. Je reçois la parole de Dieu qui va m'affranchir. Il n'y a pas question, est-ce que je vais être affranchi? Est-ce que je vais être délivré? Il n'y a pas de question. C'est sûr et certain que si vous croyez la parole de Dieu, vous allez être libre à tous les niveaux dans vos vies. C'est sûr. Parce que si ce n'était pas sûr, si ce n'était pas vrai, Dieu serait un menteur. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Alors, est-ce qu'on est prêt ce matin? Est-ce que vous êtes ouvert d'esprit à recevoir ce que Dieu veut vous dire? Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler encore une fois, on va reviser un petit peu ce qui a été enseigné la semaine passée. Donc, on a parlé que l'autorité avait été donnée à l'être humain dans le jardin d'Éden. Alors, on va regarder ensemble quelques versets dans Genèse chapitre 1 et le verset 26. En passant, pour ceux qui étaient là, vous savez, des fois, vous allez dire, « Ah, ben Joël, j'ai tout entendu ça la semaine passée. » Savez-vous, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le plus qu'on entend quelque chose, le plus qu'on va y croire. Amen. Si vous avez besoin d'être guéri, écoutez des versets de guérison constamment pour que votre âme soit convaincue que Dieu veut que vous soyez guéri. Si vous avez des problèmes financiers, écoutez des versets de la parole de Dieu concernant les finances. Peu importe le besoin que vous avez, exposez-vous à la parole et Dieu va transformer votre vie. Amen. Donc, ici, on voit l'autorité du croyant. Ok. Genèse 1, versets 26 à 28. Il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » On va le dire ensemble, « qu'il domine. » Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Au verset 28, ça dit, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la terre, de la mer plutôt, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et puis on comprend ici les premières paroles que l'être humain a jamais entendues. C'était des paroles de bénédiction. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a bénis et puis il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Est-ce qu'on vient de le lire ensemble? Genèse 1, 26 à 28. C'est les premières paroles que l'être humain a entendues. C'était des paroles de bénédiction. Ce n'étaient pas des paroles de malédiction, heureusement. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a béni l'homme et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je vous donne cette onction de multiplication dans votre vie. Comme ça, toutes les choses que vous allez faire, il va y avoir cette onction de multiplication, de bénédiction dans vos vies. » Et quand on lit ce texte-là d'une façon juste traditionnelle, on va dire « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » On pense que ça se limite simplement à la procréation. Et certainement, ça a le rapport. Certainement, c'est ça que Dieu disait. Mais ce n'est pas limité juste à la procréation, mais à tous les niveaux dans leur vie, ils étaient supposés de porter du fruit. Amen. Croyez-vous ça ce matin? Si vous croyez, vous pouvez dire « Amen » des fois. Amen. Et qu'est-ce qu'on comprend ici? Dieu les a bénis. Et par la suite, on comprend qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu l'autorité que l'homme avait reçue de dominer sur la terre, de se multiplier, de gouverner sur la terre. On comprend que quelque chose s'est passé. Bon, l'autorité de l'homme a été cédée à Satan. On en a parlé la semaine passée. Bon, Adam et Ève, on sait que Ève a eu cette rencontre avec le serpent. Et puis là, le serpent, il a dit, ben là, écoute donc pas les paroles de Dieu. Et puis, je raconterai pas toute l'histoire de la Genèse comme vous connaissez. Mais on sait que Adam et Ève ont chuté en désobéissant à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand Adam a décidé d'honorer Satan comme étant celui qui était pour écouter, là, c'est Satan qui est devenu son Dieu, au lieu que ça soit le Seigneur, son Dieu. Donc, il a fait un changement de leadership dans sa vie. Et là, le péché est entré dans le monde et tout ce qui est horrible qu'on voit aujourd'hui, la guerre, les meurtres, c'est un fruit de la chute. Hein? La guerre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qui est de destruction, ce n'est pas la volonté de Dieu. Celui qui vient nous voler, nous égorger, nous détruire, c'est le diable. Amen. Donc, on connaît cette histoire. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas des fois? C'est dans 2 Corinthiens 4, 4, ça nous dit « Le Dieu de ce siècle, en parlant de Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Donc, on sait que Satan est devenu le Dieu de ce siècle. Hein? Dans 2 Corinthiens 4, 4, il est devenu le Dieu de l'homme. Et pendant longtemps, l'humanité a marché sous cette malédiction parce qu'il y avait un mauvais maître. Mais Dieu qui voyait la situation de l'homme, Dieu était tellement rempli d'amour que malgré ça, il avait déjà fait une promesse dans le jardin d'Éden. Il a dit, inquiète-toi pas là. Il a parlé à Satan, il a dit, bon, c'est-tu un jour, pas ma progéniture, mais Jésus, il a prophétisé la venue de Jésus qui était pour écraser son talon, ou sa tête plutôt. Amen. Donc, on voit ça, qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait la promesse du rachat. Et comme quoi, un jour, Jésus était pour revenir racheter l'autorité que l'être humain avait perdue. Donc, jusqu'à date, c'est assez simple. L'être humain avait reçu l'autorité de dominer sur la terre. Par la suite, l'être humain l'a donné à Satan en marchant en désobéissance. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu racheter cette autorité-là. On est tous d'accord? Amen, c'est dans la parole de Dieu, c'est clair, tout le monde est d'accord habituellement. Mais là où on oublie la chose, qu'est-ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'autorité par la suite a été remise à l'Église de Jésus-Christ. C'est ça la partie où on a besoin de révélation. C'est que l'autorité que Jésus a reçue, il l'a remise par la suite à l'Église de Jésus-Christ. Et ça va faire toute la différence entre votre façon de marcher votre vie chrétienne. Parce que si vous ne comprenez pas que l'autorité a maintenant été redonnée à l'Église, vous allez marcher d'une façon où Dieu est souverain, et c'est vrai que Dieu est souverain, mais où ce que vous n'avez aucune responsabilité à votre bonheur, à votre joie, à votre délivrance, à votre prospérité. D'une certaine façon, vous allez juste marcher votre vie chrétienne sujet à ce que Dieu va décider pour vous. Et ça peut sembler spirituel, mais c'est faux. Parce qu'on ne peut pas remettre à Dieu l'autorité qu'il nous a donnée. Quand Dieu nous délègue une responsabilité, on ne peut pas lui remettre et dire, « Seigneur, je ne veux pas l'avoir. » Dieu nous donne une responsabilité. Puis qu'est-ce qui est merveilleux? Quand on réalise que Dieu nous a fait encore cette faveur de nous redonner l'autorité, Là, on réalise que, waouh, on peut faire des grandes choses pour Dieu maintenant, parce qu'on n'est plus lié par Satan, on n'est plus sous son gouvernement. Il est le Dieu de ce siècle, mais il n'est plus mon Dieu. Maintenant, j'ai un Dieu et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on réalise que Jésus, c'est celui qui est le chef de notre vie, waouh, là, ça change des grandes choses. Vous savez, dans Matthieu 28, 18, Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus a parfaitement racheté tout ce qui nous appartenait. Et la malédiction de la loi, ce n'est plus pour nous. Parce que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, Galates 3, 13. Donc maintenant, nous devons marcher comme des hommes et des femmes de Dieu, libres de toute oppression de l'ennemi. Croyez-vous ça ce matin? C'est ça que Dieu veut pour ses enfants. Il veut qu'on marche d'une façon libre. L'ennemi n'a aucune prise sur notre vie, à aucun niveau. Nous sommes libres en Christ. Ça, c'est merveilleux d'avoir la révélation. Vous avez dit, ouais, Joël, j'ai entendu ça. On va voir qu'est-ce que Dieu nous dit par la suite. L'autorité a été redonnée à l'Église. Voici maintenant, Luc 10, 19. Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, mais dans le grec, ça nous parle d'autorité. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Est-ce que c'est écrit dans la parole? Amen. Donc, Jésus a racheté l'autorité et là, il dit, « Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité en mon nom, en mon nom. » Il dit ici dans Marc 16, 17 à 20, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et au verset 19, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, ça dit, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Et les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Mais vous voyez, le Seigneur est rendu au ciel. Mais pourtant, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Voyez-vous, même si Jésus était parti, les disciples marchaient avec la puissance de Dieu en dedans d'eux. Et puis, Jésus confirmait la parole parce que les gens croyaient dans la promesse. C'est-à-dire, ceux qui ont cru en mon nom, ils ont fait ces choses. Et en mon nom, ils vont faire ces choses-là. Et même dans Jean 14, 12, ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, ici c'est Jésus qui parlait, il dit, fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Est-ce qu'on fait des plus grandes choses que Jésus en ce moment? Ben moi, je ne trouve pas vraiment, pas dans cette église encore. Peut-être dans une autre église voisine, il ressuscite des morts. Mais en ce moment, dans l'église de la Victoire, on a un chemin à faire. C'est pour ça qu'on va prier et on va jeûner. Mais savez-vous que la parole de Dieu qui dit qu'on va prier pour les malades et qu'on va les voir guéris, ça fait partie de la parole. On doit y croire et on est supposé de le voir. On est supposé de voir ces choses-là. On est supposé être capable de chasser des démons et d'avoir des gens libres en un instant. Moi, je crois que c'est la volonté de Dieu. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, ces textes-là sont écrits dans la parole pour rien. Amen. Mais c'est pour aujourd'hui. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 7, ça nous dit qu'il ne nous manque aucun don jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ces dons-là sont encore pour Jésus, pour nous, parce que Jésus n'est pas encore revenu chercher son Église. Et là, voyez-vous, dans Éphésiens 3, 10, ça dit « Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Toutes les dominations et les autorités, eux autres, ils vont voir la gloire de Dieu par l'Église. Et c'est nous, l'Église, qu'on va lier les forces de l'ennemi. C'est à nous de le faire. C'est pas « Oh Seigneur, voudrais-tu lier Satan? » Non, Jésus a déjà fait tout le travail qu'il avait à faire. Et savez-vous, des fois, on prie, on dit, « Seigneur, viens me libérer de telle affaire, viens me guérir, fais ci, fais ça, Seigneur. Voudrais-tu, s'il te plaît? » Et Seigneur est au ciel, puis il vous dit, « Je l'ai déjà accompli, ça fait 2000 ans. J'ai tout fait pour vous autres. Vous avez un forfait divin. Tout est accompli. L'entrée est gratuite. Votre vie victorieuse à chaque jour est disponible. Vous avez simplement exercé votre autorité. » Amen. C'est vrai. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? On est juste là, puis on attend. Puis Dieu, il dit, c'est moi qui vous attends. Faites de quoi? Savez-vous qu'est-ce qu'on est supposé de faire? Dans Matthieu 10, versets 7 à 8, ça dit, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Voyez-vous ici, vous pouvez mettre votre nom. Joël, va prêcher. Dis, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Donc, Dieu me dit ici, Joël guérit les malades. Joël ressuscite, Joël guérit les malades. Joël ressuscite les morts. Joël purifie les lépreux. Joël chasse les démons. Mais là, hey, je suis qui, moi? Je suis qui pour faire ça? Mais je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté de la malédiction. Maintenant, toute la puissance de l'ennemi est sous mes pieds. Puis, il n'y a aucune raison où je devrais marcher d'une façon intimidée vers l'œuvre de Satan, parce que je sers celui qui a déjà gagné. Je sers celui qui a déjà été victorieux. Amen. C'est vrai. Il faut changer notre perspective. Et souvent, on est des chrétiens assis en attente. Et comme j'ai dit la semaine passée, certainement, il y a des temps où on doit attendre. On prie pour quelqu'un. Seigneur, sauve ma petite fille, sauve mon enfant. Peu importe, on prie. Et on ne peut pas forcer quelqu'un, n'est-ce pas, à être sauvé. On ne peut pas le dire, hey. On doit attendre que l'Esprit de Dieu travaille dans les cœurs. Et on doit attendre après la personne pour que la personne dise oui au Seigneur. On ne peut pas forcer des choses, souvent. Mais d'autres fois que Dieu nous dit d'agir. Et c'est à nous de savoir quand c'est à notre tour de faire de quoi. Des fois, c'est au Seigneur de travailler dans les cœurs. D'autres fois, c'est à nous d'agir et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc, l'autorité a été redonnée à l'Église. Mais, comme j'ai dit la semaine passée, l'autorité souvent a été une autorité dormante où les gens étaient endormis dans les églises. On parlait des vérités, mais souvent, on ne parlait pas des choses qui pouvaient déranger les gens. On ne parlait pas du miraculeux parce qu'on ne voyait rien qui se passait dans nos églises. Vu qu'il n'y a rien qui se passe, on est mieux pas d'en parler parce qu'on va se sentir moins mal. C'est-tu vrai? Mais quand on voit des choses qui ne se passent pas, on devrait dire, « Hey, il y a de quoi qui marche et qui ne marche pas. Il y a de quoi qui cloche. » Et s'il y a de quoi qui cloche, le Seigneur va nous montrer pour qu'on se mette en position et ça va arriver. J'aime mieux faire ça, moi, de voir qu'est-ce qui ne marche pas pour se mettre en position pour que ça arrive. N'est-ce pas? Amen. Moi, c'est ça mon attitude. En tout cas, je crois que c'est le vôtre. Et une des choses qu'on doit comprendre, c'est que l'ennemi veut neutraliser votre foi. L'ennemi veut neutraliser votre autorité. Alors, si ce n'est pas assez clair, l'autorité neutralisée. Non seulement l'autorité dormante, mais l'autorité neutralisée. Ce qui veut dire tout ce que Dieu voudrait que vous puissiez faire pour le ministère, l'ennemi veut vous empêcher de le faire. Dieu ou l'ennemi veut mettre des bâtons dans vos roues, il veut vous empêcher de rentrer dedans. Et qu'est-ce qui peut vous empêcher d'entrer dedans? C'est simple, des sentiments. Simplement au niveau de vos sentiments. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8, on parle ici, on est encouragé par l'apôtre Paul, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Puis là, ça nous parle comment il s'est humilié lui-même et il a marché dans l'obéissance. On doit avoir les mêmes sentiments qui est en Jésus-Christ. On marche dans l'humilité parce qu'on sait qui on est en Christ. Ce n'est pas en nous-mêmes. Ce n'est pas à cause de notre performance personnelle. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre. Simplement parce que nous sommes en Christ. Puis si je suis en Christ, bon, toutes les choses que Dieu a promis sont pour nous. Mais ici, ça dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quelle sorte de sentiment? Ici, ça, c'est un sentiment, je suis indigne. Je suis qui, moi, pour que Dieu se serve de moi, pour faire des miracles? Je suis qui, moi? Je suis indigne. Est-ce que vous sentez comme ça des fois? Je suis indigne. Je ne suis pas assez spécial. Je ne suis pas assez loin. Je ne suis pas assez bon. Je ne connais pas assez la parole. Je n'ai pas gradué du séminaire. Ah, tu sais pas, Joël, moi, j'ai des choses dans ma vie qui ne sont pas tout à fait correctes encore. Il faut que j'attende d'être super parfait. Je deviens super Christian et puis là, je pourrais faire des choses pour Dieu. Est-ce que ça se peut que des fois, on a le sentiment d'être indigne? Mais ça, c'est l'ennemi qui vient vous attaquer. Parce que savez-vous, si vous êtes indigne, c'est parce que vous n'êtes pas en Christ. Mais si vous êtes en Christ, Dieu veut vous pardonner, puis veut vous laver, vous libérer de toute chose, toute oppression. Et une fois que vous êtes délivré, vous êtes pardonné, bien là, vous êtes digne. Parce que si vous êtes toujours indigne, une fois que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, savez-vous, ça veut dire que l'œuvre de Satan, c'était beaucoup plus fort que l'œuvre de Jésus. Ça veut dire que l'œuvre de péché est plus grande que l'œuvre de la croix qui vous a libéré du péché. Ça voudrait dire que vous êtes pris dans votre péché puis Jésus a mal fait sa job. Mais Jésus a bien effectué le travail, n'est-ce pas? On sait que Jésus l'a bien accompli à la croix. Donc, les sentiments d'être indigne. Dans Romains 8, 1 à 2, ça dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. » L'ennemi va venir vers vous pour vous dire, toi, tu es un moins que rien. Tu ne peux rien faire. C'est juste les autres qui vont faire des choses. Parce que toi, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez spécial. Mais recevez pas ce sentiment de condamnation sur vous, parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et pour ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu, ou en français, ça dit « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et dans Hébreux 9, 14, il est écrit « Combien plus le sang de Christ, qui par un Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Et en anglais, ça nous dit le mot « purge », mais « purifiera-t-il », ça veut dire que votre conscience de péché, toute votre arrière-plan, toutes les choses mauvaises passées, Dieu, il dit, à cause de l'œuvre de la croix, tout ça, là, c'est purifié. Il n'y a aucune trace qui demeure de votre ancienne vie de péché. Aucune trace. Le moment que c'est confessé et vous demandez pardon pour ces péchés-là sont balayés à tout jamais. Le croyez-vous ce matin? Amen. Parce que Dieu est toujours fidèle. Dans 1 Jean 1,9, ça dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Savez-vous, peut-être vous avez été infidèle à Dieu, mais Dieu lui a toujours demeuré fidèle. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu demeure toujours fidèle. Et même si vous autres, vous avez tombé, peu importe l'affaire, savez-vous, peu importe le problème, Jésus est toujours fidèle. Et dans le psaume 103, verset 12, ça dit, « Autant il éloigne de nous nos transgressions. » Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dans Hébreux 8, 12, ça dit, « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Souvent, quand quelqu'un fait quelque chose contre nous, on a une grosse dent contre eux autres. Est-ce que ça se peut? Ouais, mais elle m'a fait de quoi, ou lui m'a fait de quoi, puis je vais m'en rappeler longtemps. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, il dit, j'oublie tout ça. Je l'oublie, je choisis d'oublier. Et dans Ésaïe 1, 18, ça dit, « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » C'est la promesse de Dieu. Donc, est-ce qu'on devrait marcher notre vie chrétienne avec le sentiment qu'on est indigne? Et il y a même des cantiques, des fois, dans nos églises, qui dit qu'on est indigne. Il y a des fois des cantiques qu'on doit même s'arrêter puis dire, est-ce que je devrais chanter un tel chant? Il y a un chant en anglais qui dit « Unworthy of the blood ». Puis pendant longtemps, je chantais ce chant-là, puis je trouvais ça bien beau parce que c'était une belle mélodie. « How unworthy of the blood ». Je suis indigne du sang. Et dans notre position en Christ, c'est sûr, on ne mérite rien. Mais une fois purifié, si je continue à dire « Je suis indigne, je suis indigne, je suis indigne », mais une fois tu es purifié, tu es digne à rentrer dans les parvis de Dieu parce que Jésus l'a payé pour vous. C'est comme dire, je te donne un beau cadeau, mais oh, je suis indigne de recevoir, je suis indigne. Non, non. Je pense que ça peut même déplaire à Dieu. Il faut recevoir notre dignité comme enfant de Dieu et savoir, hey, moi, je suis rendu un saint. Maintenant, moi, je ne suis plus un pécheur. Je ne suis pas un pasteur pécheur. Je suis un pasteur saint. Et vous êtes des chrétiens saints et également. Partout où on se promène, on est des saints. Si vous voyez comme un saint, avec une petite couronne sur votre tête, là, non, mais vous êtes des saints, vous marchez dans la sainteté. Hey, c'est une autre façon de se percevoir. Amen. Donc, quand l'ennemi vient vous attaquer, vous dites, hey, tu parles à Saint-Joël, ou votre nom, mettez votre nom là. Hey, c'est Saint-Denisa. Hein? Fais attention à ce que tu dis, là. Tu parles contre la sainteté de Dieu. C'est Dieu qui m'a lavé. L'autre chose, un autre sentiment, la faiblesse. Ah, oh, ben, je suis qui? Moi, je suis bien trop faible. J'ai de la misère dans ma vie. Ah, oh, j'ai pas lu la Bible à chaque matin. J'ai pas lu mes 6 chapitres à chaque matin cette semaine. Je suis qui, moi, pour faire de quoi pour Dieu? Je suis trop faible. Est-ce que ça peut vous décrire ça? La faiblesse. Qu'est-ce que Dieu en dit? Il dit, ouais, c'est vrai, vous êtes toute ma gang de faibles. Fais rien faire. Non, non, c'est pas ça. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12 et le verset 9. Wow, ça, là, c'est tellement merveilleux. Je pense qu'on va tourner ensemble dans la parole. Et on va certainement parler de ce texte-là quand on va parler de la guérison divine. 2 Corinthiens, chapitre 12 et le verset 9. Ça me fait un plaisir de vous en parler. Parce que c'est un texte qui est si bien mal enseigné. C'est si bien mal enseigné que tout le monde dans le monde chrétien croit ce texte, mais comprend super mal qu'est-ce que ça veut dire. Et la raison que je peux vous dire ça aujourd'hui, on va le voir ensemble parce que la Bible contredit la tradition qui règne dans l'Église. Concernant les chars dans la chair, OK? Est-ce que nous sommes des croyants faibles? On va voir ça ensemble, OK? Donc ici, on voit, bon, l'apôtre Paul au 2 Corinthiens chapitre 12, il nous parle de sa visitation au ciel, et comme quoi il y a eu plein de révélations. Et au verset 7, ça dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. » La tradition va vous dire, l'écharde dans la chair, c'est la maladie, n'est-ce pas? Avez-vous déjà entendu parler de l'écharde dans la chair? C'est une maladie. On va voir qu'est-ce que Dieu dit. Donc, il m'a été mis une écharde dans la chair, il s'est dit « un ange de Satan ». Répétez, un ange de Satan. Un ange de Satan. Donc, ce n'est pas une maladie. Si c'était un ange de Satan qui avait été placé dans la vie de l'apôtre Paul pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc, la tradition dit, trois fois, j'ai demandé au Seigneur de me guérir de la maladie, mais ce n'est pas vraiment de la maladie, c'est un ange de Satan. Mais trois fois, j'ai demandé au Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Et Dieu a dit, traditionnellement, non, t'offre-la. N'est-ce pas? Traditionnellement, c'est « endure ton mal, je te donne la grâce pour vivre avec. Vis avec mon Paul. » Est-ce que c'est ça que vous avez entendu traditionnellement? C'est ça qu'on croit en général. Mais là, on va voir ce que la Bible dit. « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » En parlant de cet ange, ce démon qui venait l'attaquer constamment. Il était constamment attaqué. Et moi, je crois que les tribulations qu'il a vécues, les persécutions dans son ministère, souvent, c'était relié à ce démon-là qui préparait même le terrain avant qu'il arrive pour mettre des bâtons dans les roues. Qui était terrassé par ce démon-là. Puis il dit « Seigneur, délivre-moi. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Trois fois, j'ai prié le Seigneur, et là, verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Et si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai enseigné sur la grâce. C'est quoi que la grâce? La grâce, c'est, oui, certainement une faveur non méritée, et c'est également la méga dynamis qu'on a vu dans le grec. Méga dynamis veut dire la puissance méga, ça veut dire super grosse, une grosse puissance de Dieu. C'est une puissance divine, une onction glorieuse. Donc, Dieu, il dit, au lieu de dire, t'offre-le, mon Paul, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand on réalise que oui, dans ma chair, je suis faible, je ne peux rien faire de moi-même, je suis pas capable de lever un petit stylo de moi-même par la chair, je suis pas capable d'accomplir rien pour Dieu, je peux même pas guérir un mal de tête à une mouche, je suis pas capable de rien faire. Mais quand la puissance de Dieu repose sur moi, quand j'ai la méga dynamis, ça me suffit. Ma grâce te suffit. C'est ça que Dieu dit. Mais voyez-vous, quand on a la perspective qu'on est tous des croyants en attente, où Dieu est souverain, Dieu va faire ce qu'il veut quand il voudra. Et c'est Dieu, c'est vrai, je vous rappelle, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu a dit, faites de quoi? Ma grâce te suffit. Puis là, après, on voit l'apôtre Paul, il dit, hey, ben là, je vais me réjouir de tous les outrages, toutes les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu veut une église forte, une église remplie d'onction, une église remplie de la puissance du méga dynamis. Ce texte-là ne nous dit pas comment Dieu veut qu'on soit malade. Voyez-vous, ça prend quasiment un démon pour changer notre façon de voir. Mais quand on retourne au grec, on voit que c'est une méga dynamis. Là, aujourd'hui, quand quelqu'un va vous dire « Ah, tu vis des difficultés, sa grâce est là pour toi. » Sa grâce, hallelujah, sa grâce, sa méga dynamisme, super, je pète le feu dans ce cas-là. Je peux me réjouir, c'est vrai, mais il faut changer. Puis en passant, si vous doutez que c'était vraiment un ange de Satan, même si c'est écrit dans Nombre 33, verset 55, et dans Josué 23, 13, ça nous parle justement, encore une fois, de l'expression « une écharde ». Ça nous parle de l'écharde et ça nous parle à chaque fois d'une personnalité ou un peuple. Ça ne parle jamais de la maladie. OK, donc on voit ça ici. Ça, c'est juste pour révolutionner un petit peu notre façon de penser. Donc, est-ce qu'on est faible en nous-mêmes? Oui, mais heureusement, à cause de la puissance de Dieu, on ne devrait pas être comme cette personne qu'on voit en arrière ici. Mais non, on est rendu fort en Christ. Amen. Et dans 1 Jean 2, 27... Ça dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue demeure en vous. Non seulement est-ce que la grâce de Dieu vient sur vous, mais l'onction, la puissance de Dieu repose, mais est en vous. Vous avez l'onction. Et si vous doutez ça, écoutez l'enseignement sur le site web, sur l'onction de Dieu. Vous pouvez même le lire. Tous les versets sont là. Vous pouvez même le lire. On l'a tout sur le site web. L'onction de Dieu est en vous. Donc, l'ennemi voudrait vous garder captif pour penser, moins que rien, je peux rien faire pour Dieu, je suis faible, je suis indigne. Mais non, vous n'êtes pas indigne, vous n'êtes pas non plus faible. Par la grâce de Dieu, nous sommes forts. Amen. Et maintenant, les propulseurs de votre autorité. Juste une chose, avant d'aller plus loin, je veux vous dire une chose concernant la venue de Jésus. Quand Jésus est venu mourir sur la croix, il l'a fait, c'était un geste légal. Il y a des gens qui peuvent dire, Dieu peut faire n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai que Dieu peut faire n'importe quoi? Est-ce que Dieu peut vous forcer d'être sauvé si ça ne vous tente pas? Non, Dieu, il attend votre « OK ». Il attend que vous disiez, « Seigneur, viens dans ma vie. » Et là, quand vous dites ça, là, il peut rentrer dans votre vie et vous sauver. Il n'y a personne qui va être au ciel qui a été forcé, malgré la théologie. Il y a toutes sortes de théologies, mais Dieu attend votre « oui ». Et pareillement, pour que Dieu vienne sauver l'humanité, il devait venir dans la personne de Jésus-Christ sur la terre. Il devait venir en homme. Il devait venir ici pour payer le prix. C'était un échange légal, là. C'est de quoi juste. Dieu ne peut pas juste faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que Dieu respecte sa parole et Dieu respecte l'autorité déléguée. C'est une chose qu'on ne comprend pas des fois. On pense que Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe quand, mais Dieu va respecter sa propre parole. Et dans la parole, ça dit Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire qu'il va obéir sa propre parole. Parce que si Dieu se contredit, c'est un menteur, puis on ne peut pas croire le restant de la parole. Donc, Dieu va marcher selon sa parole constamment. Dieu se soumet lui-même à sa parole. C'est pour ça qu'on doit comprendre qu'il y a une chaîne d'autorité. Et quand Dieu vous donne l'autorité à faire de quoi, c'est à vous autres de le faire. OK? Mais c'est par la puissance de Dieu. C'est toujours Jésus en vous qui va faire les choses. C'est de devenir partenaire avec Dieu dans les choses que Dieu veut faire. Maintenant, une autre chose, j'ai oublié, la crainte, sentiment de crainte. Je ne peux pas rien faire, j'ai peur. Si je prie pour quelqu'un et ils ne sont pas guéris, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont rire de moi. Puis ça. Savez-vous, Dieu ne vous a pas dit que vous êtes l'auteur de la guérison. C'est-à-dire, priez pour les malades et vous les verrez guérir. Mais ce que vous avez à faire, la seule responsabilité que vous avez à faire, c'est prier et vous attendre que Dieu va le faire à travers vous. OK? Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour Dieu? Ne craignez pas. Parce que dans Job 3:25, Job l'a dit lui-même. Il a dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » OK, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si vous marchez dans la crainte, vous allez voir ces craintes-là se réaliser dans vos vies. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, l'apôtre, on voit que Job, plutôt, même si c'était un homme intègre, il aimait le Seigneur, il ne maudissait pas le Seigneur, mais juste la crainte a ouvert une porte où l'ennemi a pu entrer légalement dans sa vie. Ce n'était pas une vie de péché, c'est juste la crainte qui peut ouvrir une porte. Et des fois, on ouvre des portes à l'ennemi qui peut venir nous terrasser. Même si on aime le Seigneur, même si on marche dans la justice, toutes ces choses-là, il y a un aspect légal. Et quand, en passant, quand Dieu a dit à Satan, « Vas-y », quand on regarde dans l'hébreu, ça ne dit pas « Voici, je te le donne, fais ce que tu veux avec », mais dans l'hébreu, ça dit « Regarde, il est déjà dans ton autorité ». C'est ça que ça parle. Il dit « Regarde, la muraille est déjà tombée ». C'était pas « OK, je te laisse faire ce que tu veux avec comme ça ». Il y avait une chaîne d'autorité, puis on voit ici, la muraille avait déjà tombé par cette crainte qui gouvernait la personne. Puis c'est ça que l'ennemi veut faire aussi. Même si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, si vous marchez dans la crainte puis vous avez toujours peur de faire de quoi, l'ennemi se réjouit parce que vous êtes neutralisé, vous n'allez rien faire pour Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait là? On ne veut pas marcher neutralisé. On ne veut pas marcher comme quoi on a peur du diable. Mais non, si Dieu nous donne l'autorité, là, c'est pour saisir des victoires personnelles et c'est pour voir des victoires dans la vie des gens autour de nous autres, n'est-ce pas? Moi, je veux voir des choses glorieuses se passer et je crois qu'on va les voir au Québec. On va voir des choses se passer, mais si on n'a même pas la révélation qu'on a de l'autorité, il y a des chrétiens avec qui j'ai parlé, ils disent « Fais attention, parle pas trop du diable parce que d'un coup, il va revenir t'attaquer. » Ça, c'est d'avoir peur du diable. Mais sous nos pieds, comment ça on marche de même? Si on veut voir la gloire de Dieu éclater, on veut voir des gens sauvés, voir des stades olympiques pleins de gens qui se tournent vers Dieu, ça va se passer avec un peu de foi dans notre cœur. On va savoir qui on est. Puis quand quelqu'un dit, ben tu peux pas venir ici, tu peux pas faire ça, on va savoir que sais-tu, j'ai Jésus-Christ, le victorieux en dedans de moi. Puis même si le diable ferme des portes, Dieu va nous ouvrir. Amen. faut avoir la confiance dans la parole. On n'est pas des moins que rien. On est des enfants de Dieu. On est des ambassadeurs pour Jésus-Christ. Puis non seulement est-ce qu'on va avoir des victoires, mais on ne sera plus à la place où, « Ah, OK, là, je ne suis plus poigné dans ce problème-là. » Non, Dieu ne veut plus juste qu'on se réjouisse quand on n'est plus poigné dans de quoi. Dieu veut qu'on se réjouisse quand on vit d'autres victoires en plus. C'est ça que Dieu veut. C'est merveilleux, on sert un bon Dieu. Bon, qu'est-ce que Dieu, en Luc 8, 49 à 50, ici, à chaque fois qu'on voit, je vais juste lire le texte, ça dit « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée ». Juste en parlant de la résurrection de la petite fille, là, dans Luc 8, 49, 50, « Ne crains pas ». Jésus disait, à chaque fois il voulait faire un miracle, il disait « Ne crains pas, crois seulement ». Pourquoi? Parce que la crainte, c'est l'opposé de la foi. À chaque fois, si vous craignez de quoi, la foi est neutralisée, ça vient de bloquer, ça ne peut pas produire de fruits. C'est très important. Vous allez voir ça partout dans la parole avant qu'un miracle se produise. Ne crains pas, parce que c'est ça notre réaction souvent. On a peur. Et la crainte pervertit, c'est une perversion de la foi. C'est une foi dans l'œuvre de Satan au lieu de la foi en Dieu. C'est une confiance dans l'œuvre de Satan au lieu de la confiance en Dieu. Donc, OK, les propulseurs de votre autorité. Comment vous allez faire pour entrer dans votre autorité? Donc, ça, c'est pour vous illustrer. Les propulseurs, on peut aller très haut avec Dieu. La connaissance. Premièrement, il faut savoir qu'on a de l'autorité. Dans Osée 4, 6, ça dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et dans Proverbe 29, 18, ça dit « Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de l'Éternel. » Il faut avoir une vision devant nous et il faut connaître qui nous sommes. On doit connaître qu'est-ce qui nous appartient. Puis quand on s'expose à la parole de Dieu, on vient recevoir la parole de Dieu, on s'équipe à chaque jour pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Mais moi, là, je suis le type à écouter une prédication souvent dans une semaine. J'en écoute plein parce que je veux me remplir de la parole constamment parce que je veux vivre des victoires. Je veux connaître la parole de Dieu. Mais le problème, des fois, qu'est-ce qu'on a vécu? C'est qu'on a été des chrétiens qui connaissaient la parole, mais qui ne la vivaient pas. Est-ce que vous connaissez des gens qui connaissent, sont bourrés, leur crâne est bourré de connaissances, mais il n'y a rien qui se passe? Donc, on ne veut pas se limiter à la connaissance, mais il faut en avoir. On ne peut pas faire exception de ça. Prochainement, la chose, on a besoin de la foi. OK, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Hébreux 10, 38, ça dit « Et mon juste vivra par la foi ». Mon juste vivra par la foi. C'est la façon qu'on vit notre vie chrétienne à tous les jours, c'est par la foi. Et quand on parle avec quelqu'un, ils nous disent des fois, « Ah, ben moi, je vis par la foi de ce temps-ci. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Je vis sans salaire », n'est-ce pas? Je vis par la foi, ça veut dire « Je suis cassé comme un clou, puis là, je vis par la foi. J'espère d'être capable de payer mes comptes, n'est-ce pas? » Connaissez-vous des gens? Je vis par la foi. Non, vivre par la foi, là, ça veut dire qu'on vit par la foi. Et la foi, savez-vous, c'est quoi? C'est une force active, spirituelle. C'est une force active dans votre cœur spirituel que Dieu vous a donné le moment que vous avez été sauvé. C'est pas de quoi que vous essayez d'avoir. Vous essayez pas d'avoir une grosse foi parce que vous avez juste besoin une fois la grosseur d'une graine de moutarde. Hein, c'est ça, mustard seed, comme il y a un autre terme. Mais ça ne vous prend pas beaucoup de foi, ça vous prend juste une petite foi, là, mais bien développée, qui croit vraiment en Dieu. C'est juste ça que vous avez besoin. Une petite foi, mais qui est vraiment pure. C'est ça que Dieu veut, une foi forte, mais pas nécessairement grosse. Des fois, on pense qu'on vient à l'église pour pomper la foi. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous dit. On a besoin d'une petite foi, et on a tous une mesure de foi. On a tous une mesure. Ça dépend tout de nous autres, qu'est-ce qu'on va en faire avec. Le juste vivra par la foi. Et dans Hébreux 11, 6, ça dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Ça veut dire, on s'attend que Dieu va rémunérer notre recherche de sa présence, qu'il va nous récompenser. Si on cherche Dieu, il ne va pas se mettre à courir et dire « Faut pas que Joël me trouve. » Et non, mais quand je cours après Dieu, Dieu vient vers moi. Si je m'approche de Dieu, il va s'approcher de moi, dans Jean qu'on lit. Amen. Donc, on a besoin de cette révélation de la foi. Peu importe que les choses que Dieu me demande d'accomplir, certainement, je dois avoir la foi établie dans mon cœur. Établie dans quoi? C'est bien beau avoir la foi, mais il y a des gens qui ont la foi établie dans toutes sortes d'affaires. De nos jours, il y a des gens qui parlent du nouvel âge. Hein, j'ai la foi dans ce cristal. Et ce cristal-là là, va m'aider, va me protéger, va me donner des énergies. C'est une vraie foi, mais c'est une foi qui vaut rien, malheureusement. Parce que le morceau de cristal, ça fait juste partie de la création, c'est pas le créateur. Voici où on doit avoir notre foi. Dans Romains 18, ça dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi, c'est la parole de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. » Amen. Donc, je crois à la parole de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul prêchait. Et dans Hébreux 11, 3, ça dit « Le monde a été formé par la parole de Dieu. » C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais invisibles. Les choses qu'on voit aujourd'hui, ça a été créé par la parole qui sortait de la bouche de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance à créer des choses. Vous pouvez créer votre vie par votre vocabulaire. Savez-vous ça? La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18, 30, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Si vous dites « Je suis un moins que rien, je ne peux rien faire pour Dieu, les miracles, c'est pour les autres », c'est vrai. C'est vrai pour vous parce que vous croyez ça et vous le décrétez de votre bouche. Si vous dites « Je crois la parole de Dieu, en son nom, je vais chasser des démons, je vais guérir des malades », c'est vrai pour vous aussi. Dépendamment de ce que vous dites de votre bouche, c'est vrai ou c'est faux. OK? Donc, la parole de Dieu a été formée, le monde a été formé. Il y a des gens qui disent Dieu a créé la terre avec rien. C'est faux. Dieu a créé la terre avec. Par la foi, on voit, c'est par sa puissance de sa parole. Dans Psaume 33, verset 9, ça dit car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Si Dieu fait ça, il dit, il dit et la chose arrive, pareillement pour nous, on peut dire et voir la chose arriver. Parce que Dieu nous a donné son autorité d'agir en son nom. Vous êtes un ambassadeur de Christ, vous êtes un enfant de Dieu. Donc, on marche et on décrète la volonté de Dieu. Ce n'est pas de décréter des choses contraires à sa volonté. Parce que certainement, là, si vous ne demeurez pas en lui et vous ne demeurez pas dans sa parole, vous allez dire qu'est-ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Mais si vous demeurez en lui et lui demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Vous allez marcher, parler comme Dieu constamment. Vous vous êtes imbibé de la présence de Dieu et de la parole. Bien, sa volonté va sortir de votre bouche et ça va changer le cours de votre vie. Amen. C'est toute la parole que je vous dis. Marc 11, 23, ça dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, dites ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. » Ça dit, il faut que tu crois que ce que tu dis va arriver. Donc, si je crois que... Bon, par ces meurtrisseux, j'ai été guéri. Si je crois que mes enfants seront sauvés ou sont sauvés, je le dis de ma bouche. Il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais là, c'est un petit peu bizarre. Commencez à parler à des objets, par exemple. Hein? » Mais avez-vous déjà vu quelqu'un donner un coup de pied sur un flat, un pneu là, en crevaison? Les gens, tout le temps, là, ils vont parler. Il y a un marteau dans leur main, puis ils commencent à sacrer, puis toutes sortes d'affaires, n'est-ce pas? On parle constamment à des objets, on maudit les objets. Ça, c'est correct de maudire les objets. Mais savez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez switcher l'affaire et commencer à bénir vos objets. Si vous embarquez dans votre auto, puis vous avez eu des problèmes, beaucoup de réparations, puis au lieu de toujours dire, « Bon, je m'en vais dans ma grosse minoune », hein? Vous pouvez dire, ben, gloire à Dieu, elle rajeunit comme l'aigle. Non, ça, c'est hors contexte, OK? C'est hors contexte, je dois vous l'avouer. Mais vous pouvez commencer à bénir vos choses. Ben, merci Seigneur Dieu que tu m'as donné cette grosse minoune, hallelujah. Non, mais cette auto, vous remerciez Seigneur, et là, Dieu va voir votre reconnaissance, et savez-vous, là, vous allez hériter peut-être d'un auto. Je connais des gens, une madame a prié pendant 2-3 ans, priait que Dieu lui donne une vanne, et il y a quelqu'un qui lui a dit, hé, hey, ma soeur, j'ai à cœur de te donner une vanne. Et Dieu l'a fait. Mais il faut commencer à bénir au lieu de maudire. OK. Donc, on croit tout ça. On dit à cette montagne, peu importe, une montagne de dette, une montagne de maladie, parlez à cette affaire et elle va disparaître. Et dans le psaume 27, ça dit, « Ceux-ci s'appuient sur leur char. » Il y a plein de gens. Bon, ça ne parle pas d'une corvette, là. Mais « Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là, sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. » Ça, c'est notre héritage. On reste debout. L'ennemi vient contre nous. Il vient nous dire qu'on est des moins que rien, qu'on ne peut rien faire pour Dieu. Mais nous, on reste debout dans notre position. On n'a pas notre confiance dans notre char, dans les chevaux. On a notre confiance dans la parole de Dieu, dans la puissance de Dieu en nous. Amen. Et là, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut que je finisse. J'ai 5 minutes qui me restent. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? On a une foi victorieuse. Et pas juste ça, la dernière chose qu'on a touchée la semaine passée, on a parlé quand même de ces points-là, mais on a effleuré le sujet parce qu'on avait tellement de choses à voir. Mais l'onction, ça, c'est la chose qui nous qualifie. L'onction de Dieu dans nos vies. Dans Zacharie 4, 6, ça dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Une des choses qu'on doit comprendre, là, c'est que l'Église primitive, c'était une Église qui était reconnue par les gens comme étant les gens de l'onction. Jésus-Christ, là, le mot « Christ », ce n'est pas son dernier nom. Ce n'est pas comme Jésus tremblé. Jésus-Christ veut dire Jésus, le Messie, le oint de l'Éternel. Le oint, celui qui est oint de la présence de Dieu. Donc Jésus-Christ, à chaque fois qu'on parle de Christ dans la parole de Dieu, on parle de l'onction. Et les chrétiens, là en français c'est un petit peu plus difficile à le voir, mais chrétien vient de Christ certainement, Christian à cause de Christ. OK? Et le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, l'Église primitive, se faisait connaître et les gens parlaient d'eux comme étant la gang de l'onction. Saviez-vous ça? C'était les gens de l'onction. Parce que c'était tellement important dans leur vie quotidienne, dans leur vie d'église, qu'ils parlaient toujours de l'onction, ils étaient toujours dans l'onction, ils vivaient l'onction constamment. Et comment ça, tout d'un coup, l'Église de Jésus-Christ n'a plus besoin de l'onction de Dieu dans les églises? Comment ça, tout d'un coup, on va vivre notre église célébrale et ça va juste être du terre à terre? Il faut tout comprendre et puis il ne faut pas dire alléluia plus fort que ça parce qu'on va déranger quelqu'un. Mais ce n'était pas ça l'église, pas en tout. Au début, là, c'était des gens dans l'onction de Dieu. Ils se baignaient constamment. Et dans la place de l'onction, les libertés étaient là. Si, par exemple, mes amis, par l'Internet, à la radio, peu importe où vous vous retrouvez, si vous êtes dans une place et vous êtes en train de dessécher spirituellement, Dieu vous dit, allez dans une place où l'onction de Dieu est le bienvenu. Faut être dans une place où on baigne dans l'onction de Dieu pour vivre des libertés. Si on veut vivre de quoi? On veut pas vivre la religion. Faut être dans la place où le Saint-Esprit est le bienvenu. Amen. Donc, ici, je peux vous dire, l'Esprit de Dieu est le bienvenu ici. On veut tout ce que Dieu veut parce que dans Ésaïe 10, 27, dans la version Darby, ça dit « Le joug sera détruit à cause de l'onction ». Si vous avez un joug dans votre vie, il y a quelque chose qui vous pèse sur vos épaules, vous êtes accablé, vous avez un problème, peu importe, vous avez une maladie, peu importe qu'est-ce que vous avez sur votre dos, ça dit dans la parole « L'onction brise le joug ». Si vous avez un joug et vous êtes un chrétien depuis longue date, c'est parce qu'il n'a pas été brisé encore. Il faut être saturé, il faut être dans la place de l'onction de Dieu pour que ça puisse briser. Vous devez recevoir la présence de Dieu pour que ça soit brisé dans votre vie. C'est pas normal de vivre une vie chrétienne en dehors de la victoire. C'est pas normal. Savez-vous, c'est pas normal. On est supposé d'être des chrétiens dans l'onction. C'est là notre nom. C'est comme les oints. Partout où on se promène, les oints. Ah, c'est eux autres, les oints. C'était pas les chrétiens, les protestants, les catholiques, c'était pas un titre de même, c'était les oints, c'est une description de qui nous étions. On était les oints et savez-vous, on est encore les oints. Je suis oint de Dieu, c'est pas arrogant de le dire non plus. Souvent les gens vont dire oh, il est arrogant de dire ça, ils me le disent pas là mais ils peuvent penser il est arrogant de dire ça qu'il est oint de Dieu, mais vous autres aussi vous êtes oints, on est tous une gang oint de Dieu. On est oint, c'est qui nous sommes. Et on ne devrait pas être gêné de le vivre comme si c'était vrai. C'est le diable qui veut nous garder écrasés, qu'on marche non loin, mais on l'est. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Et le mot « détruire » là dans le texte, dans l'hébreu, ça nous parle d'être mis à un tel point et tellement détruit que c'est rendu une poudre. Une poudre, là. C'est le joug est détruit. Pas juste cassé, mais c'est rendu une poudre. Là. Il est totalement détruit dans votre vie. C'est ça que Dieu veut pour vous. Si vous ne le vivez pas encore, c'est le temps. Dans Galates 5, versets 16 à 17, en terminant, waouh, ça dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est simple. Vous voulez vivre dans la liberté, marchez dans l'esprit. Et l'esprit de Dieu est disponible pour vous. Dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit, si quelqu'un est en Christ, donc Christ, le mot c'est onction, le oint de Dieu. Okay? Donc, si quelqu'un est dans le oint de Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est qui nous sommes. Nous sommes dans cette position en Christ, dans cette onction de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans l'onction de Dieu? Ça, c'est la raison pourquoi on devait revenir encore et parler de l'onction et revenir et parler de l'autorité du croyant. Parce que quand on reçoit l'onction de Dieu dans nos vies d'une façon à déborder, là, on va voir les fruits que Jésus voyait. Quand on n'a pas la révélation de l'autorité, puis on n'a pas la révélation de l'onction de Dieu, comme quoi elle est vraiment primordiale dans notre expérience chrétienne, on ne vivra pas le livre des actes. Mais Dieu vous dit aujourd'hui qu'il veut que l'Église vive l'Église des Actes. Puis en passant, l'Église des Actes, là, il n'y avait même pas de Nouveau Testament à lire. Il n'y avait même pas les promesses qu'on a à lire. Et pourtant, il faisait des plus grandes choses que nous. Est-ce que je suis en train de vous chicaner? Absolument pas. C'est la même, je me prêche à moi-même. Eux, il y avait moins d'équipage et nous, on a plus puis on voit moins. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Qu'est-ce qu'on a besoin? La même puissance, la même onction qu'ils avaient, on a besoin de l'avoir. Et quand on la reçoit, wow! Regardez qu'est-ce qui va se passer. Dans Actes 10, 38, ça dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Voyez-vous, l'onction de Dieu brise le joug et brise l'empire ou l'empire du diable qui peut régner dans nos églises. Jésus faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient malades. Peu importe votre maladie, que ce soit votre portefeuille qui est malade, que ce soit votre corps, vos pensées, peu importe, Jésus veut vous faire du bien aujourd'hui. Amen. Ésaïe 61, verset 1, ça dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel sur moi, car l'Éternel m'a oint. » C'est Jésus qui l'a dit. « Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Hey, proclamer aux captifs la liberté. Ça, c'est merveilleux. Et vous savez, quand Jésus a commencé à prêcher ça dans le temple plutôt, ils ont voulu le lapider. Hey, c'est pas correct qu'est-ce qu'il dit là. Il n'a pas le droit de dire ça. Et devenez, si seulement il avait resté puis il avait continué à prêcher, mais il a été arrêté. Mais il avait dit ici, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Donc, en terminant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette autorité-là? C'est pour stopper, pour mettre une fin à l'œuvre de Satan dans nos églises, dans nos vies. Et par la suite, on va prendre notre autorité dans le monde et on va vivre des miracles. Amen. Et dans Romains 5, 17, ça dit, « Si par l'offense d'un seul, en parlant d'Adam, la mort a régné par lui seul, qu'à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? » On va régner dans la vie, on ne sera plus dominé par Satan dans nos vies, mais on va régner. Dans 1 Pierre 2, 9, ça dit, « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, passé, c'est passé composé, là, que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, on marche dans la lumière maintenant. On est saint, on était libéré. Puis c'est juste une question d'une révélation, d'un déclic dans notre tête qu'on réalise qu'on n'est plus le chrétien qui essaye d'être guéri, on est le guéri et le diable essaie de nous rendre malade. On n'est plus le chrétien qui essaye d'être délivré, on est le délivré puis le diable essaie de nous rendre esclaves. C'est toute une façon qu'on se voit. Si vous voyez encore esclave, encore malade, vous êtes encore dans votre position charnelle. Mais embarquez dans votre position en Christ, puis ça change toute votre façon de voir votre vie. Vous allez marcher dans la victoire à tous les niveaux. Ce n'est pas juste des feuilles ou des mots sur une feuille. C'est la parole de Dieu. On devrait y croire. Ça serait normal que les chrétiens croient Christ et sa parole. Ça serait normal. Il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir à y croire. Et là, par la suite, j'y vais rapidement. On doit reprendre notre héritage. Vous lirez le psaume 91. Ce n'est pas juste la poésie, c'est la vérité. Lisez le psaume 103 au complet. Méditez là-dessus. La semaine passée, on a parlé comment on peut vivre longtemps sur la terre. Il y a plein de promesses si on ose y croire. Et là, malgré les choses qui se passent, OK, on est des héritiers, co-héritiers avec Christ dans Romains 8. Et dans Ésaïe 60, ça dit « Lève-toi ». Sois éclairé, malgré les ténèbres sur le monde, ça dit, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et là, vous dites, ouais, mais Joël, moi, je suis un pauvre chrétien. Non, sur toi, écoutez, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Sur moi, aujourd'hui, sa gloire apparaît. La liberté d'un enfant et d'un fils de Dieu apparaît. Vous avez dit, oui, mais Joël, j'en ai parlé à ma sœur ou à mon frère dans le Seigneur. Ils n'ont pas cru ça. Ça dérange pas. En tant que vous y croyez, priez pour eux autres. Laissez-vous pas influencer par les gens qui vont vous dire « Assis-toi, sois traditionnel, attends, attends, attends. » Non, faut se réveiller puis réaliser aussi que c'est pas tout le monde qui vont comprendre en même temps. Si c'est pas tout le monde qui comprend, qui saisit les vérités, correct, aimez-les. On n'est pas meilleur que personne. Si on comprend des choses comme ça, c'est simplement parce que Dieu nous a donné la capacité de le comprendre là. Des fois, il y a des saisons où on ne comprend pas des choses. Mais savez-vous, on a juste à aimer les gens qui n'ont pas compris ces choses-là. Mais par la suite, Dieu va se servir de nous. Si on marche dans l'humilité, dans l'amour, Dieu va se servir de nous autres pour les aider à comprendre. Amen. Sur toi, la gloire de Dieu vient. Et dans Deutéronome 28, 13, ça dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Tellement de choses que je pourrais dire. Voici maintenant, quel chemin prendrez-vous? Je vous ai parlé aujourd'hui de plein de choses, mais la décision de la bénédiction et de cette marche de l'autorité, ça dépend de votre oui et de votre décision. Croyez-le ou non, c'est une question d'une décision. Ça n'arrive pas comme ça. Donc, le dernier verset, Deutéronome 30, verset 19 à 20, ça dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Voici vos témoins. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » On a le choix, là. Il nous le met clairement. Et Dieu nous donne la réponse qu'on devrait prendre. Il dit, « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Voyez-vous encore ici? « Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le pays de bénédiction que Dieu veut vous donner aujourd'hui dépend de votre choix. La vie, la mort, la bénédiction ou la malédiction, l'autorité ou le syndrome du tapis. » C'est vrai. Qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? Quelle route allez-vous prendre? Est-ce que vous osez croire les promesses de Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous osez dire, « Moi, je crois qui je suis en Christ. » C'est fini les journées de domination. C'est fini l'œuvre ou le règne de Satan. J'ai été sauvé pour régner. Amen. Pendant que l'équipe de la louange vient, on va prier ensemble. Moi, je crois ce matin, la parole de Dieu peut vous affranchir, peu importe le problème, peu importe la chose qui peut vous déranger dans votre vie chrétienne. L'œuvre de Satan est terminée. Si aujourd'hui vous dites, « Moi, je reçois la provision de Dieu. » En passant, ça ne veut pas dire qu'on vit pas d'épreuves en tant que chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on marche dans un jardin de tulipes ou de roses puis il n'y a jamais des choses qui viennent nous déranger. Mais savez-vous, Dieu nous donne les clés pour surmonter ces choses-là. Dieu nous donne toujours les clés, comme on prie. Et dans Romains 8, 28, ça dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais toutes ces choses-là, quand on prie, Dieu transforme les mauvaises choses pour concourir à notre bien. Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que Jésus a racheté l'autorité que Adam avait perdue. Seigneur, on ne prend pas cette autorité-là d'une façon légère, mais on la prend et on la chérit aujourd'hui. Et Seigneur, on se place devant ton trône, Seigneur, et on réalise qu'on est responsable de marcher d'une façon digne de cette autorité-là. On est responsable de marcher aujourd'hui en croyant la parole de Dieu afin que cette ville soit touchée par la puissance de Dieu, afin que la puissance de Dieu visite le Québec. Seigneur, on se rend disponible aujourd'hui. Sers-toi de nous, Seigneur Dieu. Sers-toi de nos mains aujourd'hui pour voir des malades guéris. Sers-toi, Seigneur, de nos bouches pour chasser les démons. Et même, Seigneur, merci pour la foi que tu nous donnes pour ressusciter les morts. Toutes ces promesses, Seigneur, on y croit parce que c'est toi qui l'as dit. On croit ta parole, Seigneur Dieu. On se met devant ton trône et on dit, nous sommes l'armée de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes ceux qui vont oser croire et oser recevoir l'héritage de notre salut. Merci, Seigneur Dieu, de nous équiper. Merci pour la foi que tu nous as donnée. Merci pour l'onction que tu nous as donnée en dedans nous et sur nous. Merci Seigneur Dieu. On te glorifie au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié avec foi, vous êtes qualifiés pour être des soldats dans l'armée de Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.